Vous écoutez, on lit pour vous.
Le sexisme de Google, Wikipédia et IMDb, un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 février 2024 dans la presse. Google est bel et bien sexiste, selon une nouvelle analyse américaine de plus d'un million d'images. Wikipédia ne fait pas mieux au niveau des stéréotypes professionnels, ni l'encyclopédie cinématographique IMDb. L'effet Harry Potter. Depuis quelques années, plusieurs études ont avancé que l'Internet perpétue les clichés sexistes. Mais Douglas Guilbeault, un sociologue ontarien qui travaille à l'Université de Californie à Berkeley, pense avoir démontré définitivement le problème. À partir d'un million d'images de recherche Google et Wikipédia, il montre, le 13 février dans Nature, que le portrait de 3500 métiers et professions est basé sur les stéréotypes. C'est particulièrement inquiétant parce que les images restent gravées dans la mémoire, dit-il en entrevue. Par exemple, vous pouvez avoir imaginé Harry Potter de plusieurs manières en lisant son livre. Mais après avoir vu les films, vous avez en tête Daniel Radcliffe. Les vedettes. La présentation des vedettes aussi est sexiste. Selon l'étude de Nature, sur IMDb, Internet Movie Database et Wikipédia, plus de 70% des personnes qu'on identifie comme célébrités sont des hommes, dit M. Guilbeault. En politique, ça peut se comprendre. Mais dans le cinéma et la télévision, c'est quand même surprenant, vu le nombre d'actrices. Ça montre que les stéréotypes valorisant les caractéristiques masculines influencent le vedettariat. Ce sexisme du vedettariat pourrait expliquer que les acteurs sont payés plus que les actrices, même s'il y a plus d'actrices que d'acteurs, selon le chercheur. La réalité. M. Guilbeault a aussi comparé les images de Google et de Wikipédia aux données du recensement américain. Les images s'avèrent plus genrées que la réalité. Par exemple, en cherchant un métier ou une profession plus masculine, les résultats montrent encore plus d'images d'hommes que dans la réalité. L'écart entre les recherches d'images et les statistiques de recensement est d'environ 10%. Mais dans certains cas, Google reflète bien la réalité ou est légèrement moins genré. Il faut avoir une réflexion sur la possibilité que les moteurs de recherche jouent un rôle dans l'amélioration de la parité et de l'inclusion plutôt que de simplement refléter les stéréotypes, dit M. Guilbeault. La neutralité du langage. Les chercheurs ont aussi analysé la proportion d'hommes et de femmes dans les descriptions de métiers et professions. Ici, Google et Wikipédia ne sont pas sexistes, encore moins que les données du recensement. Est-ce à cause des campagnes de promotion du langage épicène? Non, parce qu'il y a encore peu d'impact de ces campagnes sur le contenu Internet. C'est à cause de la neutralité du langage. Des fois, on ne sait pas si on parle d'un homme ou d'une femme. Beaucoup de termes n'ont pas de version différente selon le genre. D'un pays à l'autre. Les recherches en texte pourraient par contre être plus sexistes avec des langues plus genrées, par exemple les langues latines. Electrician, par exemple, est invariable en anglais, mais en français on peut dire électricienne. Il y a 2 ans, il y a eu une étude qui a montré que les recherches sur Google étaient plus genrées dans les pays plus sexistes, dit M. Guilbeault. Cette étude a été publiée dans PNAS et était basée sur les pointages d'égalité des sexes du Forum économique mondial. C'était le sexisme de Google, Wikipédia et IMDb, un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 février 2024 dans la presse.
Misère et splendeur du cheveu afro au Québec. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. Coiffer les cheveux crépus s'avère être un vrai casse-tête au Québec. La science de ce poil délicat et versatile ne s'enseigne dans aucune école publique, bien que près d'un demi-million de Québécois aient ce type de cuir chevelu. Une réforme plus inclusive du DEP en coiffure devrait voir le jour sous peu. D'ici là, des coiffeuses se démènent pour reprendre en main leur héritage. Dans son salon de Québec, Mwamini Ntabio a vu débarquer sur sa chaise toutes sortes de catastrophes capillaires. Des coiffes négligées jusqu'aux tresses douloureuses. C'est tellement sérieux que ça joue dans la tête des gens. Certains disent « je rase tout ». Très peu de salons en dehors de Montréal peignent ces mèches crépues. La formation en études professionnelles aborde à peine les cheveux très frisés. Il existe tout de même quelques salons spécialisés, puisque n'importe qui peut s'improviser coiffeur au Québec. Ici, le gouvernement n'exige aucun permis aux coiffeurs ou coiffeuses, contrairement à l'Ontario ou à la France. C'est en regardant faire de plus âgés qu'eux que plusieurs, comme Mwamini, se sont fait la main. Avant, c'était une tantine qui s'occupait de ça pour survivre. Aujourd'hui, les jeunes veulent mieux, dit-elle. La précédente mise à jour de la formation en coiffure date de plus de 20 ans. Sa réécriture n'aboutira pas cette année, selon les personnes impliquées et interrogées par Le Devoir. Elle arrivera au mieux en 2025. Quelques formations privées, en ligne ou anglophones, offrent des cours d'appoint. Cess El Ousma, alias Miss Lady Blue, figure parmi les pionnières de ces écoles parallèles. Le manque de coiffeuses noires est un problème partout, affirme-t-elle dans son salon de Montréal. Autodidacte formée sur des poupées venues d'Haïti, elle a perfectionné son art à Atlanta. On effleure à peine le style afro ici, selon elle. Ça prend une approche différente, une approche internationale. Un dégradé de dégradé. Salvatore Falci, coiffeur avec 28 ans de métier, en est à sa troisième version du programme. Pour avoir vu le contenu du prochain, il trouve que c'est vraiment encourageant. L'art du cheveu très frisé sera abordé. L'absence de soins capillaires adaptés est très flagrante à Montréal, confirme cet ancien professeur du Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Aujourd'hui enseignant en région, au Centre 24 juin de Sherbrooke, il sent monter le malaise partout sur le territoire. Il passe au peigne fin l'origine de ses nouveaux étudiants et note qu'entre les très frisés cheveux africains et les très raides cheveux asiatiques, toute une gamme de boucles doit être abordée dans le nouveau cours. Tout le monde va y passer. De toute façon, les professeurs débordent déjà un peu pour enrichir leurs cours. Les attentes sont grandes au sein de la profession, assure-t-il. On est ouvert aux nouvelles techniques. On va avoir du plaisir. Or, le cheveu lisse prédomine encore au Québec. Sans masse critique de clients noirs dans plusieurs villes ou villages, nombre de coiffeurs hésitent à démêler les cheveux africains par manque de pratique. Les gens qui ont des cheveux afro vont dans les salons afro. Il n'y a pas de mélange, on dirait, constate Stéphane Roy, président de l'Association Coiffure Québec et propriétaire d'un salon dans le quartier montréalais à Ontic. C'est sûr que quelqu'un avec des cheveux extrêmement bouclés, il veut que ça soit beau et il met toutes les chances de son côté. L'héritage du cheveu crépus. À Québec, s'il pouvait y avoir un établissement de formation pour les cheveux afro, ça serait plein. Soutient Moi Mini Enta Bio. Passionnée par ce cheveu, elle a réalisé une exposition éphémère à son sujet dans la capitale nationale. Trop préoccupée par le simple soin capillaire, plusieurs membres des communautés noires s'entêtent à conserver une prudence excessive au détriment du style, déplore la jeune coiffeuse. Souvent, on fait les mêmes tresses parce qu'on protège les cheveux. Et on fait ça depuis toujours. Tresse bantou, vanille ou couchée. Le cheveu africain offre beaucoup de potentiel, dit-elle, sans oublier les extensions et les teintures. Mais n'allez pas demander à cette militante du cheveu naturel de défriser les cheveux très frisés. Juste faire la coiffure tendance, c'est passer à côté de l'héritage, souligne-t-elle. On a une part d'héritage qu'on n'ose pas essayer. Quand d'autres essaient des coiffures, on s'insurge et on commence à crier. Mais on laisse ces coiffures au placard. C'est grâce aux gens lisses qui essaient que certains styles reviennent. L'hiver et les tuques compliquent certes les fantaisies tridimensionnelles, quoique l'on puisse avoir une coiffure d'hiver et une coiffure d'été. Formé ou non, des coiffeurs travaillent professionnellement le cheveu africain depuis au moins 1870 au Québec. John Williams, lui-même afro-descendant, avait ouvert cette année-là un salon dans le quartier général de Montcalm, le plus ancien bâtiment domestique de la capitale. C'était « Misère et splendeur du cheveu afro au Québec », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.
L'âge est-il dans la tête? Un texte de Marie-France Bazot paru le 20 février 2024 dans La Presse. Ces derniers temps, aussi bien dans les discussions entre amis que sur la place publique, beaucoup de discussions enflammées sur les questions relatives à l'âge. Il y a eu cet article de La Presse sur l'âge ressenti. On y confirmait que, passé 40 ans, on tente à se considérer comme 20% plus jeune et que les 80 ans s'en donnaient à peine 65. Plusieurs intervenants affirmaient qu'on a l'âge que l'on ressent. On a aussi évoqué l'âge à cause de Joe Biden. Le président américain a été traité de pépère sénile de 81 ans. Le procureur Robert Hur, après avoir admis qu'il n'avait pas de motif pour l'accuser d'avoir conservé des documents secrets du temps où il était vice-président des États-Unis, évoque la mauvaise mémoire de Biden, ses réponses péniblement lentes. Il le traite de pépère sympathique, cristallisant dans l'opinion populaire l'impression que malgré les 5 ans seulement séparant les deux candidats à la présidence, l'un est trop vieux et l'autre fringant dans la force de l'âge. À la radio, Penelope McQuaid a consacré récemment un segment de son émission au phénomène NOLD, contraction de Never Old. Les NOLD sont les 45-65 ans qui se considèrent comme trop vieux pour être jeunes, mais trop jeunes pour être vieux. C'est la version marketing de la génération X, mais ça touche un point sensible. Nous sommes nombreux à nous sentir concernés, parqués dans ces limbes joyeux et niant la réalité de l'âge qui va. Les questions relatives à l'âge abondent, et ce n'est pas pour me déplaire. L'âge me préoccupe. Personnellement, sur un ton léger, comment s'habille une femme à mon âge? Nous avons d'ailleurs consacré un épisode de l'émission « Tout le monde s'habille » à Télé-Québec à la question de l'âge et les réflexions sont passionnantes. Professionnellement, en télé, on demande aux producteurs de concevoir des émissions pour les 25-45 ans. Ce groupe rend fou les télédiffuseurs. Il est loin d'être homogène, ne regarde plus la télé traditionnelle et de moins en moins le contenu d'ici. Comment les intéresser? Socialement, je vis dans cette société où s'est déroulé, pendant la pandémie, un abandon mortel d'aînés en CHSLD. J'y repense souvent, car ça nous dit quelque chose de très violent sur notre attitude face aux vieux et au vieillissement. Il y a l'air du temps. Depuis 10 ans, il faut l'avouer, les questions concernant l'âge sont au plus discutées. Jeannette Bertrand a osé nommer l'âgisme rampant dans notre belle société si bienveillante. Des comédiennes, des animatrices, des femmes en vue évoquent de plus en plus le fait qu'on les écarte de certains rôles ou postes à 50 ans. Les baby-boomers qui vieillissent massivement ont commencé à remettre en question le statu quo et ne veulent pas vieillir invisibilisés. Oui, les exemples d'enjeux liés à l'âge et au vieillissement abondent, sur fond d'insatisfaction croissante. En fait, la conversation sociale autour du vieillissement se situe au confluent de deux enjeux, être vieux et être de son temps. Être vieux, on le sait, on l'a vu, est très relatif. Le plus tard possible dans la tête des seniors et déjà dans les yeux des plus jeunes. Être de son époque, c'est une autre affaire. Il y a des vieux très pertinents, à l'acuité indiscutable à 85 ans. De même que Biden et Trump sont de leur époque. Ils la font, la définissent, littéralement. En même temps, nous assistons à une accélération du passage des générations. Les X ont à peine eu leur temps que les milléniaux débarquaient sur la scène publique. Mais ces Y sont déjà talonnés par des Z, alors que les Alpha grouillent derrière. À force d'instrumentaliser des générations de plus en plus courtes, on se condamne tous au siège éjectable prévisible et à la stricte glorification de la jeunesse, éternellement remplaçable. Et que dire de la crainte qui hante tout le monde? Celle d'être passé date. C'est la question que posait sur les réseaux sociaux un Denis Coderre avide de revenir en politique. Visiblement, la réponse l'a satisfait. Mais on peut être révolu à 60 ans comme à 47. Et tout à fait pertinent à 99. Je songe toujours au sociologue Guy Rocher. Être passé date n'est pas une question d'âge, mais d'adéquation. D'être capable de bien jauger les enjeux de son époque. Nous vivons un formidable paradoxe. Notre société glorifie la longévité des grands vieillards, fait l'apologie des diètes méditerranéennes, japonaises ou autres, qui vous feront franchir le cap des 100 ans. La médecine s'enorgueillit de pouvoir bientôt pousser la machine humaine jusqu'à 120 ans. Au même moment, on vous fait disparaître socialement dès la retraite. On invisibilise les femmes vieillissantes. Et, OK, boomer, on méprise collectivement les têtes blanches. Sérieusement, qui veut vieillir dans une société qui, dans les faits, ostracise tout ce qui est mémoire et expérience? L'hypocrisie sociale est totale. Biden et Trump sont vieux. 60 est le nouveau 50, qui est le nouveau 35. L'âge, c'est dans la tête. D'accord ou pas? Mais si ce n'est pas que dans la tête, c'est que c'est aussi partout dans la société. Et là, nous y pouvons tous quelque chose. C'était « L'âge est-il dans la tête? » Un texte de Marie-France Bazot, paru le 20 février 2024 dans La Presse.
La joie d'enseigner. Un texte d'Étienne Beaulieu, paru le 17 février 2024 dans Le Devoir. Un étudiant est venu me voir à la pause cette semaine pour me dire que dans mes cours, c'est comme si je chantais, que ma voix monte et descend ou projette et retient sa puissance à la façon des nuances en musique, du fortissimo jusqu'au chuchoté du pianissimo. Je n'avais jamais pris conscience de mon penchant pour ces effets de voix, mais depuis que cet étudiant m'en a fait part, je me vois maintenant jouer le petit théâtre de mes cours avec tous ces personnages que je convoque pour leur expliquer le contexte historique des œuvres que je leur donne à lire pour ce cours. Par exemple, Mirabeau, Danton, Marie-Antoinette, Marat, Robespierre, Madame de Staël, Desmoulins, Olympe de Gouges pour la période révolutionnaire. Je me suis arrêté un instant, m'observant préparer ces scénettes, les jouer pour moi-même, tester leurs effets et souligner comment tout cet attirail aide à mieux lire les textes. Et soudain, je me suis vu moi-même, comme dans un miroir intérieur, sourire de contentement. Quel plaisir tu prends, vieux singe à enseigner, quel magnifique métier que le tien, celui de transmettre ta passion pour ces œuvres que tu admires, que tu lis et recenses depuis des décennies. Quel malin plaisir tu prends à jouer ta scène de cirque, de scander ces syllabes que tu connais par cœur pour mieux faire entendre tout cet opéra mental dans lequel tu oses installer la classe. Quelle jouissance tu te donnes d'entendre les rires gênés des réfractaires à calotte du fond de la salle qui te regardent d'abord avec circonspection, amusement et bientôt rient avec toi de la folie qui vient de s'emparer du groupe. Eh oui, ils viennent d'entrer dans une scène de Balzac avec ce sourire aux lèvres. Ils suivent avec passion la renaissance du colonel Chabert qui remonte du monde des morts vers celui des vivants qui ne le reconnaissent pas. Ils vivent avec ce fantôme sa frustration devant l'imbécilité des choses humaines et finissent par s'indigner eux-mêmes de la bêtise de notre monde. On parle beaucoup depuis des années de ce qui plombe le métier d'enseigner et on a raison de le faire. Composition de la classe, salaire, concurrence des GAFAM, omniprésence des écrans, intrusion des autorités ministérielles dans le contenu des cours, etc. Mais on oublie de dire qu'à travers tous ces obstacles, il reste la joie d'enseigner, de transmettre, de voir s'illuminer les regards, d'entendre les langues se délier, les cerveaux entrer en surchauffe, les idées et les phrases s'entrechoquer dans une magnifique chorégraphie pas toujours chaotique. Le plus beau métier du monde, pas de doute. En omettant tout cet aspect de la merveille qu'est le métier d'enseigner, on décourage beaucoup de gens et on prive ce faisant l'institution de talents qui n'auront jamais cette chance de vivre ce théâtre de la voix, qui n'auront pas l'occasion de déployer leur capacité à faire vibrer des textes et des consciences. On détruit l'âme, pour le dire clairement, de ce métier le plus important de notre société, celui qui fait le relais entre l'univers de la maison et la jungle humaine de la société, qui permet d'accorder pour une première fois sa confiance à quelqu'un d'autre qu'aux parents, de voir l'existence selon un autre regard, une perspective différente pour s'acheminer ultérieurement tout doucement vers une vie adulte, autonome, éclairée. J'enseigne depuis maintenant 25 ans et je ne me remets pas encore de toute cette responsabilité qui m'incombe, de ce devoir qui est le mien de cultiver la curiosité, d'ouvrir toute grande l'envie de connaître, de se transformer au contact de l'altérité des textes. Je n'ai devant ma salle de classe que peu de ressources pour arriver à mettre de la lumière dans les yeux comme des lanternes qu'on allumerait une à une. J'ai d'abord la langue française dont je déploie le plus possible toutes les ressources lexicales, toutes les tournures grammaticales les plus ébouriffantes dont je suis capable pour leur montrer le merveilleux jeu des mots que la langue offre à qui souhaite la manipuler. Et j'ai aussi l'histoire que j'éclaire par des tableaux que je peux interpréter avec eux pendant des heures, le radeau de la Méduse, la liberté guidant le peuple, le voyageur contemplant une mer de nuages. J'ai aussi des pièces musicales qui leur font entendre ce qu'avaient dans les oreilles ces frères humains, Villon, qui nous ont précédés. Le trio des esprits de Beethoven, la danse hongroise numéro 5 de Brahms, Ziegernerweisen de Pablo de Sarasate, mais aussi la Carmagnole ou le Saïra que le peuple chantait dans les rues. Et surtout, surtout, j'ai avec moi ces immenses textes qui sont passés entre les mains des générations pour arriver à nous, encore tout vibrant des combats que, par exemple, Germaine de Staël livrait pour donner enfin la parole aux femmes dans de la littérature en 1800. Pour faire prendre conscience que nous n'avons pas inventé le bouton à quatre trous hier matin, que des générations sont passées avant nous, ont vécu, espéré, souffert et désespéré, et que notre position dans l'histoire ne se résume pas au présentisme dans lequel nous enferme notre actualité anxiogène. De faire sentir cette communion avec les morts, c'est pour moi une part majeure de la joie d'enseigner. C'est en un mot ouvrir toute grande la question béante, tout en friche aujourd'hui, de ce qu'est l'âme humaine. C'était « La joie d'enseigner », un texte d'Étienne Beaulieu, paru le 17 février 2024 dans Le Devoir.